Manaono, salam! Je suis Saimbach et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture ni visualisation pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. J'ai le plaisir d'accueillir Marco, qui vit à Barcelone en Espagne. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis une grande fan de l'Espagne, donc je ne serai aucunement objective sur cette expérience. Par contre, si vous ne connaissez pas le pays, je vous prie de toute urgence de prendre un billet d'avion, parce que oui, l'Espagne doit être visitée. On ne grandit pas toujours avec une image positive et bienveillante des valeurs malgaches. La famille avant tout, c'est le mantra de tous les malgaches. Mais est-il réellement adopté par tous ? Marco a eu une douloureuse expérience avec sa famille qui l'a peut-être poussé à prendre ses distances. Il a décidé de partir, vivre à Barcelone, là où le soleil et les tapas sont monnaie courante. Après 5 ans à Barcelone, il ne se revoit plus revenir en France. Vous aussi, vous avez envie de sangria et de tortilla, là, tout de suite? Allez, je vous laisse. Bonne écoute! Bonjour Marco, comment vas-tu?
Bonjour Saimbach, ça va bien et toi?
Oui, ça va très bien, merci. Donc déjà, merci beaucoup de m'accorder du temps aujourd'hui pour qu'on parle de ton expérience, de ta vie. Je suis super contente de faire cet épisode avec toi parce que tu vas nous dire après où tu habites. Mais il y a très très peu de malgaches qui habitent dans ce pays, et notamment dans les pays hispaniques, pour spoiler un peu les auditeurs. Donc je vais d'abord te demander de te présenter, nous dire comment t'es arrivé là, quel âge tu as et où est-ce que tu habites aujourd'hui.
Ok, bah écoutez, donc je m'appelle Marco Razzo, j'ai 28 ans, je vis actuellement à Barcelone. Capitale de la Catalogne, région autonome d'Espagne. J'y vis depuis janvier 2017. Donc, ça fait 5 ans que j'y vis. 5 belles années de bonne chair et de bonne vie. Et les raisons en fait, qui m'ont poussé à y vivre, c'est non seulement l'aspect professionnel, mais aussi parce que, voilà, avec mon copain, on avait décidé de vivre à l'étranger tous les deux, tenter une première expérience à l'étranger ensemble, et voilà. Donc à deux, on est un peu plus courageux, donc voilà, on s'est dit que c'était une occasion à saisir, autant pour lui que pour moi.
Bien sûr,
même on avait des projets distincts.
D'accord. Donc,
voilà, chacun avait son objectif, et pour autant on avait voilà, on voulait profiter de la vie commune à Barcelone.
D'accord, super. Et première question, est-ce que tu es heureux à Barcelone? Est-ce que c'est une vie que tu aimes? Est-ce que le bilan est positif depuis ces 5 ans?
Il est absolument positif, à 1000% positif. Oui. C'est une ville qui est vivante, qui est dynamique, sans pour autant être hyper active, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas écrasé non plus par voilà, les flux de la ville, l'ambiance, tout est à taille humaine, en fait. Donc on s'y retrouve, non seulement en termes professionnels, mais aussi en termes sociaux, parce que les gens gardent quand même cet esprit d'intégration. Ils savent que Barcelone, c'est une métropole européenne, donc il y a beaucoup de gens qui viennent, qui vont, mais pour autant, il y a des personnes qui trouvent leur compte pour des raisons différentes, donc celles qui veulent s'installer pour le moment, celles qui sont là pour une expérience à l'étranger, d'autres qui sont là pour Erasmus, certains sont là pour les études, donc il y a, comment dire, un certain mélange des genres et des objectifs qui permet à chacun, voilà, d'avoir une vie différente et pour autant de profiter des structures similaires.
D'accord. Écoute, C'est vraiment intéressant parce que je trouve que Barcelone, déjà, c'est une ville dont on parle beaucoup, alors en France, pour les vacances, pour un week-end, pour le côté, en fait, festif de Barcelone. Et on parle assez rarement des gens qui vivent, qui restent et qui s'y plaisent, comme toi. Donc, avant de parler un peu plus de ta vie et de la ville, j'aimerais qu'on reparte un peu en arrière, qu'on reparte un peu de ton éducation, dans quel cadre de vie t'as grandi, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui t'a fait partir un peu de France. Donc, si tu pouvais nous dire un peu où est-ce que tu as grandi, si tu connais Madagascar ou non, si tu parles malgache ou non, voilà.
Alors, je suis né dans une famille 100% malgache, donc mes deux parents sont malgaches. Je suis né, j'ai grandi dans le Val d'Oise, donc en banlieue parisienne, dans laquelle mes parents sont arrivés après avoir immigré en France lorsqu'ils avaient une vingtaine d'années. Et l'idée, voilà, c'était de nous éduquer en France pour profiter. Voilà, de la richesse de la culture française, de profiter des perspectives non seulement économiques, mais aussi sociales qu'on pouvait avoir en France. Et donc voilà, je suis issu d'une fratrie où je suis l'aîné. Donc j'ai trois frères et sœurs, nous sommes quatre au total. Donc c'est important à dire parce que dans les familles malgaches, voilà, la fraternité, c'est quelque chose qui, c'est un, comment dire, un cadre qui peut déterminer plusieurs relations, qui peut déterminer un quotidien et qui est souvent ancré dans la personnalité même des individus qui la composent.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est j'ai grandi dans ce petit cocon familial. J'appelle ça cocon aussi parce que mes parents ont eu l'attention particulière de nous transmettre voilà ces valeurs de partage, d'aide, de soutien à chacun. Ils l'ont fait avec, comment dire, avec détermination parce qu'ils souhaitaient que plus tard on puisse compter les uns sur les autres. Donc oui, ça nous a fait du bien, comme ça a pu aussi nous jouer des tours. Ça, on l'abordera peut-être plus tard, mais voilà, chaque valeur aussi chaque valeur collective a son pendant aussi où l'individu se perd parfois. Donc ça, ce n'est pas ignoré. À côté de ça, il y a toute cette idée où, voilà, quand on grandit dans une famille malgache, il y a un lien indéfectible qui se construit. Et le fait que je sois parti à Barcelone aussi, à l'étranger, a parfois distendu ce lien. Qui a pu provoquer certaines voilà certaines frictions, certains malaises. Donc voilà, ce n'est pas forcément tout rose. Barcelone, ce n'est pas loin de Paris, donc il y a quand même ces connexions qu'on peut avoir.
Bien sûr.
Mais le ne plus avoir de communauté de vie quotidienne, évidemment, a perturbé quelque chose et surtout les circonstances dans lesquelles c'est arrivé.
Bien sûr.
A pu voilà, peut-être modifier le lien, mais là, tout s'est arrangé, donc on voit les choses d'une autre manière désormais.
D'accord. Et quand tu dis justement que ça a un peu bouleversé la communauté de vie, j'aimerais savoir si tu as déjà grandi dans un environnement où tu étais très proche de la diaspora malgache en France, c'est-à-dire est-ce que tu allais dans les églises, les associations, tu vois, par exemple, il y a la RNS pour la rencontre nationale sportive. Bon, voilà, on sait qu'en France, il y a beaucoup d'événements et beaucoup de moments, en fait, en famille ou entre amis où les Malgaches se retrouvent. Je voudrais savoir si toi, tu as grandi dans cette communauté, en fait.
Oui, alors quand je vivais avec mes parents, oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de retrouver des personnes qui ont été éduquées de la même manière que moi, qui partagent la même culture, les mêmes musiques, la même nourriture. Voilà, ça peut paraître anodin, mais déjà partager les mêmes goûts de la musique et la même même goût de la nourriture, c'est déjà beaucoup
Bien sûr.
pour moi en tout cas. Voilà, mais même depuis enfant, en fait, faut savoir que j'ai passé une année quand j'étais enfant, enfin vraiment enfant, c'est-à-dire après mes 1 an, mes parents m'ont envoyé à Madagascar durant 1 an voilà, pour que je rencontre mes grands-parents, mais aussi parce que mes deux parents devaient travailler en France. Ils n'avaient pas le temps forcément de s'occuper de moi, donc ils m'ont envoyé chez mes grands-parents pour que qu'ils puissent me rencontrer, étant leur premier petit enfant. Donc voilà, il y a ça déjà qui a pu déjà m'imprégner de certaines choses, même inconsciemment. Et après que je sois retourné en France, je passais quand même chaque été à Madagascar jusqu'en 2006. Donc voilà, de mes 2 ans à 2006, ce qui fait à peu près 14 ans, ouais. 14 ans, pendant 14 ans, ouais, j'allais chaque été à Madagascar pour revoir mes grands-parents, revoir ma famille avec qui j'avais tissé des liens. Mmh. Quand bien même c'était seulement pendant les vacances, moi j'avais quand même cet appétit de voir où est-ce que je venais. Et puis, c'était une autre ambiance que la France. C'était un autre style de vie. Donc, il y avait quand même beaucoup de curiosité de ma part. Et lorsque je participais aux rencontres et que je voyais la diaspora malgache en France, je retrouvais un peu de ça. Donc, ça me faisait du bien parce que je pense qu'il y a ce côté, enfin, cet aspect naturel de retrouver ses pairs, retrouver ses semblables qui rassure et qui est confortable aussi. Donc voilà, je participais à ces événements en France, peut-être pas activement, mais je regardais du moins, parce que voilà, j'étais plutôt spectateur et ça me plaisait parce que je voyais comment on pouvait s'amuser. C'était différent du quotidien que j'avais. Où il y avait l'école, l'école où il y avait vraiment toutes les personnes qui se mélangeaient, issues de différents lieux qui se mélangeaient. Donc, c'était différent de lorsque je rencontrais des Malgaches en France. Mm-hmm. Donc, il y avait aussi cette sensation de transfert, cette sensation de transition continue, en fait, entre les deux milieux qui me plaisaient beaucoup. Parce que ce n'était pas figé. Du coup, moi, j'aimais bien cette idée de pouvoir changer de cadre tout en me sentant à l'aise dans les deux. Parce que je n'avais aucune gêne, aucun malaise à partager des plaisirs, à partager des moments d'amusement avec les deux, en fait. Mm-hmm. Je ne cherchais pas à les reproduire, donc j'y allais pour des raisons différentes, et ça, j'en étais conscient. Mais oui, la diaspora malgache était quand même très présente pendant mon enfance. Parce que c'est les parents peut-être étaient plus rassurés à l'idée aussi de me laisser m'amuser avec des enfants dont ils connaissaient les parents.
Oui.
Parce que mes parents acceptaient de connaître aussi ses parents. Ils étaient moins ils étaient moins inquiets à l'idée de laisser leurs enfants s'amuser avec les enfants de parents qui ont vécu la même expérience.
Bien sûr.
Donc il y avait cette idée de retrouver, en fait, même pour mes parents, en fait, de retrouver des personnes qui ont peut-être suivi le même parcours d'immigration en France, même des personnes qui, par surprise, ont été à la même école qu'eux. Donc, dire que leurs enfants vont s'amuser avec des enfants de personnes qui sont issues du même milieu, il y a, voilà. C'est de la reproduction sociale, faut dire ce qui est, mais ça reste quelque chose d'assez sain en termes de construction solide du milieu, quoi.
Et en termes de, tu vois, tu parles beaucoup du fait que les parents aiment être avec des gens qui finalement leur ressemblent. Est-ce qu'il y a des valeurs communes, par exemple, qu'on t'a inculquées et que t'as retrouvées chez d'autres personnes? Par exemple, tu parles beaucoup de la fratrie, l'importance de s'entraider. Ça, c'est quelque chose, on en parle beaucoup dans la diaspora malgache, et notamment, par exemple, les Malgaches qui vont en France. On compte beaucoup sur la famille en France pour s'entraider, pour les papiers, mais aussi pour le logement, pour quelle que soit la galère que tu as, on compte beaucoup sur la solidarité des Malgaches. Hormis ça, est-ce que toi, il y a des valeurs communes que tu as retrouvées chez des jeunes que tu as fréquentés au sein de ces différentes communautés?
Ouais. Alors, d'un point de vue général, oui, il y a des valeurs que je ne voyais pas simplement chez moi, mais chez d'autres aussi. Il y avait par exemple cette idée de d'intégration parce que voilà, peut-être que les Malgaches, vu que voilà, en France nous sommes une minorité, il y avait aussi cette volonté de vouloir rentrer aussi, faire partie de la société française aussi, parce qu'on était conscient de la chance qu'on avait eue de pouvoir émigrer vers la France. Donc il y a voilà cette idée d'intégration qui est quand même présente. D'autre part, il y a aussi cette idée de la religion a quand même une grande place, je trouve, dans la diaspora malgache en France. Je parle de, par exemple, voilà, la religion protestante, parce que voilà, je pense que la religion protestante est déjà présente en France, à Madagascar, pardon, et que du coup, retrouver des personnes qui partagent cette intime conviction est quelque chose de rassurant et de voilà, ça permet peut-être de mieux supporter le quotidien qui peut être difficile pour des Malgaches, de se retrouver à l'église. Donc voilà, je dirais intégration, religion, mais peut-être une troisième qui est le goût de la fête, en fait. Parce que la fête, les Malgaches, il faut être transparent. Les Malgaches, c'est des fêtards. C'est des personnes qui aiment la bonne vie, c'est des bons vivants. On a plein de raisons de faire la fête, que ce soit les naissances, que ce soit les mariages, que ce soit les anniversaires. Et même, je l'ai vu quand j'étais à Madagascar, même les enterrements, en fait, sont une occasion de faire la fête. Voilà, je trouve que la vie malgache est quand même dynamique dans le sens où il y a plein de valeurs qui gravitent autour de la famille et qui permet de voilà de se sentir bien, de partager plusieurs choses à différentes étapes de la vie en fait.
D'accord. Et tout à l'heure, t'en as un petit peu parlé, et j'aimerais qu'on aille un peu plus en détail dans le sujet. Tu as parlé du fait que tu étais heureux à Barcelone, que tu t'y plaisais beaucoup. Déjà, je voudrais échanger avec toi sur le fait de ta décision de partir. Comment tes parents l'ont pris? Parce que c'est pas toujours facile déjà de partir de chez soi. Ensuite de quitter donc le nid familial, mais aussi de quitter le pays. Je sais que par exemple, j'ai déjà échangé donc dans d'autres épisodes du podcast avec des Malgaches qui ont quitté Madagascar, et quand ils ont pris cette décision, c'était pas toujours bien pris par les parents. C'est comme un il y a une peur, bien sûr, hein, parce qu'on part dans d'autres pays, donc loin de ses parents, mais il y a aussi ce sentiment peut-être délaissement ou d'abandon. Toi, comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à tes parents? Comment eux ont réagi à cela?
Alors, je vais peut-être aborder les choses d'un point de vue chronologique parce que c'est ce qui permet de mieux l'expliquer, parce que c'est assez important le timing en fait que j'ai suivi. Donc en fait, durant mon adolescence, j'étais quand même quelqu'un d'assez indépendant moralement, c'est-à-dire que j'essayais de construire mes propres schémas, mes propres ce que je considérais comme important, ce que je considérais comme devant faire partie de moi tout au long de ma vie. Et j'avais toujours eu cette envie de construire les choses par moi-même parce que voilà, je sentais que collectivement avec ma famille, j'avais déjà construit beaucoup de choses et je voulais me sentir capable aussi de faire les choses par moi-même. Donc ça, je l'ai senti quand j'étais adolescent. Après, durant les études supérieures, j'ai réussi à mettre en forme un peu tout ça. J'ai réussi à mettre en forme cette quête de l'accomplissement personnel sur la base de ce que j'avais déjà eu. D'ailleurs, ça, c'est une valeur que mes parents, surtout mon père, m'a inculquée. Voilà, cette idée de dépassement de soi-même et de dépassement du socle dans lequel j'ai été éduqué. Donc voilà, il y avait déjà cette envie de faire mieux que ce que j'avais déjà fait.
Bien sûr.
Compétition avec soi-même, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup poussé vers l'ailleurs, on va dire. Après, Donc le départ de chez mes parents, c'est quelque chose que j'avais envisagé, mais dont j'avais peur, peut-être parce que c'était inconnu. Et mes parents, par contre, ne l'avaient pas envisagé. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas, une chose dont ils ne voulaient pas forcément discuter, peut-être parce qu'ils ne se voyaient pas déjà l'avoir fait. Sûrement parce que vu que je suis l'aîné de la famille, ils n'avaient pas encore subi cette expérience et du coup, ils ne savaient peut-être pas gérer ça, ce que je peux comprendre. J'ai appris à me mettre à la place de mes parents et à me dire que voilà, est-ce que mes parents, ce sont des personnes qui fonctionnent beaucoup sur sur l'exemple, sur le mimétisme. Donc, s'ils sont confrontés à une expérience qui leur est inconnue, ils ne savent pas forcément réagir. Donc, le départ de leur premier enfant, je peux comprendre que ça a pu être quelque chose de choquant et de difficile. Ah oui, c'est une chose aussi chez les Malgaches que j'ai retrouvé beaucoup chez d'autres personnes avec qui j'en ai parlé. Chez les Malgaches, en fait, un enfant ne quitte chez ses parents que lorsqu'il se marie. C'est-à-dire que pour mes parents, je ne pouvais quitter le foyer que lorsque j'en construisais un autre avec une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui m'avait surpris parce que voilà, ça voulait dire que voilà, le malgache ou la malgache, enfin, l'individu malgache dans la culture malgache, de ce que je comprenais, ne pouvait s'accomplir que dans un collectif, que dans un, que dans, que en interaction avec d'autres et ne pouvait évoluer que dans un bain, voilà, ne pouvait pas forcément se projeter seul. Et ça m'avait beaucoup interrogé. Mais bon, après, voilà, j'ai rencontré mon copain actuel. Avec qui je vis et qui du coup voilà, ça m'a permis de peut-être voir les choses d'une autre manière. Ça m'a sûrement rendu plus courageux aussi. C'est en le rencontrant et en me disant que je pouvais peut-être faire des choses aussi par moi-même, que du coup je m'étais lancé dans une vie à l'étranger. Donc peut-être que c'était le schéma qui avait suivi mes parents dans la forme, c'est-à-dire partir lorsque je créais un foyer avec quelqu'un d'autre. Mais là, du coup, c'est une personne avec qui est complètement extérieure à tout ce avec quoi j'avais vécu. Voilà, donc c'était une trajectoire similaire, mais avec peut-être un tremplin différent, on va dire. Donc voilà, ça c'est le départ de chez mes parents a été douloureux, autant pour eux que pour moi. Pour eux parce que ça ne s'est pas fait forcément dans l'idée qu'ils s'étaient faite en départ de leur premier enfant. Ma mère l'a mal vécu, l'a beaucoup plus mal vécu que mon père. Ma mère aussi, je pense qu'elle avait la manière dont elle nous a éduqués était assez, a souvent et a toujours été assez infantilisante, c'est-à-dire que voilà, elle cherchait constamment à garder un lien assez organique avec nous, même si on était une extension d'elle-même, ce que j'avais adoré auparavant quand j'étais enfant, parce que voilà, je me sentais vraiment exister à ses yeux.
Aimé aussi,
Voilà, non, ça, je trouve que ça avait des bons côtés d'avoir une mère aussi protectrice. Mais voilà, qui avait quand même du mal à avoir ce lien, se distendre pas forcément se détacher, mais être conçu d'une autre manière. Voilà, un lien aussi profond, mais qui désormais évolue d'une manière différente. Et mon père, lui, c'était. Mon père l'a peut-être un peu mieux pris. Je pense que c'est parce que lui aussi, j'ai cherché les bons mots aussi pour que lui me comprenne, d'homme à homme, on va dire. Ça a son importance, que mon père me comprenne. Parce que mon père m'avait toujours dit quand j'étais enfant que voilà, le but des parents, chez les Malgaches, c'est que, les enfants, leurs enfants les surpassent. Et j'avais toujours travaillé pour faire ça, travailler d'un point de vue scolaire, académique, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc j'ai travaillé sur moi-même aussi pour surpasser ce que mes parents avaient déjà fait de moi. Donc voilà, il y avait cette idée de se détacher sans pour autant oublier d'où je venais. Donc voilà, ma séparation avec mes parents a été très très dure au départ.
D'accord.
Pour ne rien te cacher, il y avait 2 mois durant lesquels on ne s'était pas parlé. Parce que il y avait cette, comme tu l'as dit, cette idée de délaissement, cette idée d'abandon. C'était quelque chose de douloureux aussi pour mes frères et sœurs, avec qui je suis, que je les aime d'amour, en fait, que j'avais vraiment mal, surtout vis-à-vis d'eux, parce que, voilà, ils n'avaient pas forcément l'explication de mon départ. Et ne pouvaient pas forcément se rendre compte des circonstances et surtout du fond de l'idée que j'avais de mon départ de chez mes parents. Voilà, les choses se sont améliorées parce que j'ai pris le temps d'expliquer mon choix, de dire en fait les raisons pour lesquelles je voulais partir. Donc je l'ai fait pour moi et pas forcément contre eux.
Bien sûr.
Peut-être que matériellement les faits sont les faits, mais l'intention est différente en fait, est complètement opposée.
Bien sûr. Oui, oui.
Et c'est ça que je voulais leur faire comprendre. Et je pense avoir réussi à leur faire comprendre ça aujourd'hui parce que voilà, je pense que les choses sont revenues à la normale. J'ai pu tempérer un peu leur sentiment de délaissement, d'inquiétude aussi, parce que voilà, je pense que l'idée de laisser leur fils partir à l'étranger alors que ils n'avaient jamais vécu ça auparavant, quand j'étais enfant, c'était autre chose parce que j'étais avec mes grands-parents, mais là se dire que que j'étais livré à moi-même et que n'avaient pas forcément de vue sur mon quotidien à l'époque, pouvait les inquiéter, donc je gardais ça en tête, donc j'essayais quand même de leur décrire aussi mon quotidien, et j'essayais toujours de leur décrire mon quotidien pour qu'ils se rendent compte que voilà, là j'ai réussi à devenir quelqu'un d'accompli, qui est droit dans ses baskets, qui n'a pas failli à l'éducation qu'ils m'ont transmise, qui reste tout de même leur grand-fils Marco.
Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est important de dire, comme tu le dis, qu'on part, pour soi et on part pas contre nos parents, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui le prennent comme ça. Finalement, pourquoi tu pars? Tu m'aimes plus? T'es plus heureux? Et en fait, je pense aussi que c'est une question de génération. Que notre génération, donc les millennials, ont vraiment cette envie, et aussi la génération Z, de vouloir plus de liberté, plus voyager, plus découvrir, entre guillemets, le monde, peut-être que ce que nos parents ont finalement moins fait, ou du moins n'avaient pas forcément cette volonté d'aller déjà au-delà peut-être des règles aussi qu'on leur a imposées.
Ouais, alors en fait, ce qui est drôle... Et c'est une chose dont je me suis rendu compte dans ma famille. Alors, j'en ai peut-être pas parlé forcément avec d'autres personnes, mais en tout cas dans ma famille, pas nucléaire, mais dans ma famille en général.
D'accord.
Ce que mes parents en fait m'ont expliqué, c'est que voilà, ils ont émigré vers la France pour avoir des conditions de vie meilleures, de créer un cocon comparé à Madagascar. Donc avoir des conditions de vie économiques, sociales, politiques, de santé aussi surtout, meilleures. Voilà, il voulait que ce cocon reste et stagne identique pour voilà le restant de leur vie et de leur famille. Et donc mes parents en fait, quand je leur ai annoncé que je voulais partir, non seulement de leur foyer, mais aussi à l'étranger. Ma mère m'avait dit, de manière assez farouche, mais Mais Marco, t'as tout ici. Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux chercher compliqué alors que on a pu tout construire pour toi? Et en fait, c'est quand elle m'a dit ça que je me suis rendu compte que oui, en fait, enfin, je m'étais déjà fait à l'idée, mais ça a confirmé en fait ma conception de la famille ou dans laquelle la collectivité est sûrement saine pour se construire,
Bien sûr.
mais qui peut parfois être contraignante lorsque on a des projets et qu'on a de l'ambition. Non pas qu'on ne puisse pas avoir de l'ambition dans une famille, mais il y a cette idée de confort que moi j'ai une idée de laquelle je voulais m'échapper aussi, que je voulais créer, voilà, créer ma propre trajectoire, ma propre histoire,
Bien sûr.
et ne pas forcément m'inscrire et vivre par procuration dans ce que mes parents avaient déjà construit. Non pas que je rejette, évidemment je leur dois beaucoup, je ne rejette pas comment dire, le bagage qu'ils m'ont transmis, mais je voulais en faire quelque chose. Je
D'accord.
ne voulais pas simplement le reproduire.
Bien sûr, bien sûr. Et donc après toutes ces étapes, on arrive au moment où tu décolles pour Barcelone. Pour ceux qui connaissent pas déjà, est-ce que tu pourrais décrire un peu le paysage Barcelone, où est-ce que ça se situe à peu près en Espagne? Voilà, nous faire une petite présentation de la ville et bien sûr de nous dire comment est ta vie aujourd'hui au sein de la ville.
Ouais. Alors, du coup, donc, le Barcelone est la capitale de la région autonome de Catalogne, qui est donc, voilà, l'Espagne, c'est une monarchie républicaine qui est divisée en régions autonomes, autonomes d'un point de vue législatif et fiscal. Il y a cette idée en Espagne de, voilà, chaque région a sa propre culture, a ses propres normes parfois. Qui d'ailleurs ça s'est vu aussi durant le confinement, durant la pandémie, je veux dire, en termes de transport. Voilà, Barcelone est la deuxième ville d'Espagne après Madrid. Cela va sans dire que c'est un poumon économique de l'Espagne, non seulement grâce à sa proximité avec la France, avec les autres villes d'Europe, à son aéroport, à son port aussi, à son port maritime. Mais aussi avec son histoire méditerranéenne, parce que la Méditerranée, c'est quand même le carrefour de toute l'Europe. Et Barcelone a été l'étape de beaucoup de comment dire, de péripéties économiques et politiques dans toute l'Europe. Barcelone, en fait, si je devais la décrire, c'est une ville littorale. Donc, on a la chance d'avoir la mer à côté de nous. On a du beau temps, 300 jours de soleil dans l'année, ce qui est pas négligeable quand on vient de la France. C'est une ville qui est, donc, je l'avais dit, à taille humaine. Quand je dis à taille humaine, c'est que on peut aller de part en part de la ville à vélo ou à pied, en vélo en 1 heure, à pied en une demi-journée. Donc, il y a quand même cette idée de conserver un peu Barcelone, comment dire, ne pas la transformer en mégapole européenne. D'ailleurs, ce n'est pas possible parce que Barcelone est entre la montagne et la mer, donc géographiquement, ça
Géographiquement,
ne serait pas possible. Mais de garder quand même un dynamisme de pouvoir. D'ailleurs, d'un point de vue immobilier, il y a peu de bâtiments qui sont construits à Barcelone. Donc, ils essaient quand même de garder cette ville, de ne pas la défigurer, de ne pas la rendre trop urbaine, parce que voilà, ça reste une ville méditerranéenne. Donc, on n'aura pas de gratte-ciel, on n'a pas de building, simplement dans le quartier des affaires, et encore, c'est quoi, c'est 4 tours. Donc, Barcelone, oui, c'est une culture très, comment dire, c'est solaire, quoi. C'est une culture de partage, de gastronomie, de fête, culture de village aussi, parce que c'est une ville qui a su évoluer en fonction voilà, des différentes personnes qui arrivaient, qui intégraient les différents individus à différentes étapes de leur vie. Je disais ça plus tôt. Donc on peut voir qu'on soit enfant, en famille, en études, en carrière professionnelle ascendante ou en retraite, Barcelone reste une ville vraiment de très bonne qualité. On s'y plaît, peu importe les raisons pour lesquelles on y vit. C'est pour ça que je trouve aussi qu'on peut avoir plusieurs vies à Barcelone. On peut avoir une vie de noctambule, parce qu'il y a beaucoup de fêtes, des fêtes officielles mais aussi officieuses. On peut avoir une vie de gastronome parce qu'on a beaucoup de restaurants différents pour tous les goûts. On peut avoir une vie très sportive aussi parce que voilà, il fait beau, il y a la mer, il y a beaucoup de compétitions sportives qui sont faites aussi à Barcelone, une bonne équipe de waterpolo, je dis ça parce que je fais du waterpolo.
D'accord.
Beaucoup de voyages aussi qui passent par Barcelone ou qui partent de Barcelone, parce qu'il y a l'aéroport de Barcelone est un aéroport international qui va vraiment voilà, dans le monde entier, qui dessert les 6 continents. Il y a cette idée, voilà, à Barcelone, que il y a toujours quelque chose à faire durant l'année aussi. Vu qu'on profite du calendrier national, mais aussi de la région autonome de Catalogne, il y a beaucoup de fêtes locales et nationales aussi dont on profite. Voilà, les fêtes de l'indépendance, les fêtes religieuses, parce que voilà, l'Espagne n'est pas un pays laïque. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, il y a cette durant l'année aussi, et je pense que c'est ça qui plaît. Quand on vit à Barcelone, au-delà des week-ends et des choses de fêtards, dans la ville, il y a beaucoup de choses durant l'année qui permettent de vraiment se retrouver entre locaux qui y vivent. Voilà, que ce soit les jours fériés, que ce soit aussi les rencontres. Il y a aussi une vie culturelle qui est très riche à Barcelone. Voilà, il y a cet aspect fêtard pour lequel on y va, et je pense que Barcelone aussi profite aussi de ce dynamisme touristique.
Bien sûr.
Un cinquième de l'économie espagnole dépend du tourisme, ça il faut pas l'oublier. Mais à côté du tourisme étranger, il y a aussi un tourisme local aussi qui est possible. Avec différentes vies, différentes fêtes, différentes occasions qu'il y a de se rencontrer. Par exemple, la Sant Jordi, la Sant Joan, qui sont des fêtes voilà très catalanes à Barcelone, qui se célèbrent beaucoup. Donc voilà, tout est une occasion de faire la fête aussi à Barcelone.
Mais finalement, quand tu parles un peu de l'Espagne, tu parles beaucoup du partage, que c'est quand même une ville festive, on aime bien manger aussi. Il y a quand même quelques similitudes avec la culture malgache. T'as pas forcément été très dépaysé, tu trouves. Comment tu vois un peu, si on fait un peu le parallélisme entre les deux cultures, est-ce que t'as le même avis, que c'est similaire ou pas du tout?
Alors, je pense que les valeurs sont similaires, mais du coup, entre les communautés, c'est un peu, voilà, il y a cette idée de d'entre-soi parfois, ce que je peux comprendre, lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément issu du même quotidien que nous, du même milieu.
Bien sûr.
Mais les valeurs se retrouvent en fait. Je n'ai pas forcément été choqué par leur idée, voilà, peut-être de d'abord aller vers les Catalans avant d'aller vers nous, les Français. Mais par exemple, voilà, là, je suis arrivé dans mon nouvel appartement l'été dernier, et lors de la Sant Jordi, qui est une fête locale à Barcelone, les voisins sur leur terrasse m'ont invité à dîner avec eux. Donc il y a quand même je dirais pas un effort d'inclusion, mais il y a quand même cette démarche de partager
Bien sûr.
Un moment de repas qui n'est pas dedans. Partager un repas, ça veut dire c'est quand même un beau symbole, je trouve,
Bien sûr.
de partager un repas avec un voisin. Et j'avais, j'ai, 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 je me suis beaucoup amusé durant cette soirée parce que voilà, durant ce dîner, on parlait quand même des similitudes qu'il y avait entre voilà les Espagnols catalans et les Français. Voilà, quand je leur apprenais aussi que j'étais malgache, du coup il y avait aussi cette curiosité aussi parce que eux n'avaient peut-être pas forcément rencontré de malgaches. Tu disais au départ qu'il n'y avait pas beaucoup de malgaches en pays hispanique et c'est le cas. Ce n'est l'Espagne n'est peut-être pas forcément le premier pays d'immigration des malgaches. Mais oui, il y a beaucoup de valeurs que j'avais vues en Espagne qui m'étaient familières.
D'accord. Et au niveau des locaux, justement, si tu peux nous en parler un peu pour avoir une description type. Alors, on sait que les vérités, enfin, il n'y a pas de vérité générale, mais voilà, nous décrire un peu l'espagnol et ou le catalan typique, quelle est un peu leur mentalité, comme tout à l'heure, tu faisais la même chose pour les malgaches dans cette idée qu'on aime bien se retrouver ensemble, on est des fêtards, on a à peu près les mêmes valeurs communes. Les Catalans, ils sont comment?
Alors, je vais parler de ceux qui sont de ma génération, parce que c'est ceux que je vois le plus. Alors, en fait, les Catalans, voilà, ils partagent beaucoup de fêtes ensemble, parce que voilà, à Barcelone aussi, comme je t'ai dit, c'est des bons vivants, donc voilà, ils font des festivals ensemble. Parfois, leurs parents sont déjà amis, ils ont été à l'école ensemble. Donc il y a quand même beaucoup cet esprit d'endogamie un peu de se retrouver avec ses pères je trouve chez eux mais qui n'est pas forcément dans l'exclusion des autres. Alors je ne dis pas forcément que voilà on va devenir meilleurs amis, mais en tout cas voilà il y a des premiers pas qui ont souvent été engendrés par des Catalans, et non pas forcément pour moi, peut-être par timidité. Donc oui, les Catalans sont assez accueillants, je trouve. Après, il y a cette idée aussi que voilà, les Catalans aiment bien les Français, il faut le dire. Il y a beaucoup on a un passé commun entre les Français et les Catalans. Même la langue catalane ressemble un peu parfois au français, et le français ressemble parfois au catalan. Donc il y a ça, il y a cette proximité qui est assez agréable. À côté de ça, il y a aussi, voilà, peut-être un peu le revers de la médaille, où il y a certaines pratiques qui ne sont pas forcément très agréables à voir, voilà, par exemple, moi, l'appartement dans lequel je suis, ça a été un peu le parcours du combattant pour le trouver, parce que voilà, il y a peut-être du favoritisme local qui a été fait. Il y a peut-être eu aussi des choses qui n'étaient pas dites en termes de normes et qu'on ignorait, et que peut-être dont il, c'est même pas peut-être, c'est dont il. Certains en profitaient. Donc voilà, tout n'est pas forcément à prendre, tout n'est pas forcément à accepter à Barcelone. Donc il faut, je pense que quand on vient à Barcelone, peut-être dans d'autres pays aussi, mais je ne peux parler que de mon expérience à Barcelone parce que c'est la seule expérience à l'étranger que j'ai eue. Il faut faire l'effort de s'adapter, de comprendre la perception de l'autre et les raisons qui le poussent
Bien
à
sûr.
peut-être agir de telle ou telle manière. Il ne faut pas forcément reproduire ce qu'on considérait comme commun et acquis pour tout le monde. Oui, voilà, il y a des pratiques, il y a des coutumes à Barcelone qui ont pu me surprendre. Voilà, il faut se dire que ce n'est pas le pays dans lequel j'ai grandi et c'est à moi-même aussi de faire l'effort de comprendre aussi et pas tout de suite de faire un peu une levée de bouclier, de se dire ah non, 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 c'est complètement gênant et rédhibitoire et complètement rejeté, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a cette ouverture d'esprit qui est nécessaire. Quand bien même il y a des similitudes avec ma culture, une ouverture d'esprit sur des choses qui peuvent nous paraître décalées ou peut-être arriérées.
Bien sûr, bien sûr, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et concernant la gastronomie, parce que généralement l'Espagne, on connaît pour la paella. Est-ce qu'il y a des plats, des choses que tu manges, que tu apprécies, que tu ne retrouves qu'en Espagne? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des produits de la France, ou même de Madagascar qui te manquent, que tu ne retrouves pas forcément en Espagne?
Alors, trouver de la bonne nourriture, ça a été ma priorité à Barcelone.
Comme
Non
un bon
seulement,
malgache que tu es.
ben ça c'est gravé dans mon ADN, je crois. Alors, c'est pas seulement les restaurants, mais aussi en termes de produits à cuisiner. On n'a pas les mêmes choses qu'en France. Tout à l'heure, je parlais de s'adapter à des choses, ça en fait partie, la cuisine. Alors, si je devais parler des similitudes, oui, il y a des similitudes, que ce soit les fruits de mer. Moi, j'aime beaucoup les fruits de mer, on trouve beaucoup de fruits de mer aussi ici à Barcelone. Ils ont un régime plus carnivore que nous, je trouve aussi. Ils aiment beaucoup la viande, beaucoup, beaucoup, beaucoup la viande. Ici à Barcelone, ce n'est pas pour me déplaire, parce que moi aussi, j'aime beaucoup la viande. Oui, voilà, je trouve que c'est une gastronomie assez variée, la cuisine catalane. Fait de beaucoup de sauces, beaucoup de combinaisons un peu incongrues. Par exemple, ils ont un plat qu'ils appellent terre et mer. Donc, ils aiment bien mélanger un peu les fruits de mer ou les crustacés avec de la viande. Ça, c'est plutôt bon. Voilà, ils ont une cuisine qui se fait aussi beaucoup avec voilà ce qu'on trouve dans le frigo. Voilà, faut savoir que la paella en fait c'est un mélange de plein de trucs différents et souvent des restes pour ne pas les gaspiller. Ça, mais à côté de la paella, voilà, il y a d'autres plats. Par exemple, voilà, en termes de poisson, il y a beaucoup de poissons. Le Saint-Pierre qui est très bon. La râpe qui est très bon aussi, enfin la queue de l'hotte, enfin la lotte, pardon. Non, en termes de gastronomie, on s'y plaît. Mais après, voilà, c'est vrai que quand on est malgache et que on peut retrouver des produits qui ressemblent aux produits malgaches parce que il y a beaucoup de Sud-Américains en Espagne et à Barcelone. Et je trouve que la cuisine sud-américaine et la cuisine malgache se ressemblent en beaucoup, beaucoup de points. Que ça soit dans la combinaison des plats, que ça soit la manière de manger, que ça soit les ingrédients en eux-mêmes, c'est beaucoup de féculents, beaucoup de racines, beaucoup de viande, voilà, des choses à manger sur le pouce aussi. Par exemple, à Madagascar, on a les moufakounj, on a les beignets, on a les moufballs, ces choses-là à manger sur le pouce et dans la rue. Et bah, je trouve qu'en Afrique, en Amérique du Sud aussi, on a ce genre de choses. Et ce qui est très bon, et voilà, même les plats à base de riz, de racines de manioc, de patates, Et l'idée, je pense qu'elle est similaire parce que à chaque choix, enfin, de ce que j'ai vu, à chaque choix gastronomique, il y avait une idée aussi sociale. C'est que, vu qu'il fallait partir travailler durant la journée entière, il fallait manger quelque chose d'assez
Bien sûr,
costaud.
bien sûr.
Et en ayant voyagé en Amérique du Sud, j'ai vu ça aussi, et ils me l'ont expliqué de la même manière, et c'était drôle parce que je retrouvais cette même habitude culinaire à Madagascar. Donc ça, ouais, ça c'était bien. Donc après, je ne vais pas te mentir, ça me manque la cuisine malgache.
Oui.
Donc chaque fois que je vais chez mes parents, c'est la seule chose que je leur demande. On fait ce que vous voulez durant mon séjour, mais matin, midi, soir, je veux manger malgache.
Parce que tu
Voilà.
trouves pas les produits en Espagne?
Non, je ne trouve pas les produits parce qu'il y a des, par exemple, des légumes qui sont typiques de Madagascar. Ou peut-être que c'est moi qui ne les ai pas forcément trouvés, que je n'ai pas trouvé leur équivalent ici. Mais non, et pourtant, même après avoir cherché, je ne les ai pas trouvés. Et après, voilà, la cuisine malgache aussi, c'est une cuisine qui prend du temps.
Bien
C'est des
sûr.
choses qui mijotent durant très
Oui.
longtemps. Et maintenant que je vis, je ne vis pas chez mes parents, donc je n'ai pas forcément tout ce temps à donner à la cuisine, quoi. Même si j'adore cuisiner. Même si j'adore cuisiner, mais du coup, voilà, il y a cette idée de timing qui n'est pas ignorée, quoi.
C'est sûr, c'est sûr. Et concernant le cadre de vie, en fait, je voulais savoir au niveau des activités culturelles. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on pouvait faire du sport facilement, qu'on pouvait faire beaucoup d'activités, puisqu'il y a la montagne, il y a la mer, c'est une ville nocturne. Toi, par exemple, pour donner une idée hein, de ce que tu fais le week-end, quelles sont tes activités généralement?
Alors, j'ai pu m'inscrire dans un club de sport, un club de sport où je pratique nécessairement, enfin, de la natation, parce que c'est mon sport d'origine. Et c'est un complexe sportif parce que voilà, il y a d'autres sports aussi qui sont possibles, il y a d'autres activités qu'on peut découvrir aussi. Par exemple, le paddle qui est le sport national, on va dire, en Espagne. Donc ça, j'ai pu découvrir ce sport qui est très amusant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une variante du tennis, mais avec des murs en plastique tout autour. Donc il faut savoir jouer avec les murs aussi. Donc c'est un peu un mélange de squash et de paddle qui se joue toujours en double.
Et de
Un mélange de
tennis.
squash et de tennis, pardon. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue sportif. Donc oui, je suis assez actif sportivement. Donc ça, je m'y retrouve. Après, d'un autre point de vue, il y a beaucoup de sorties qui sont possibles à Barcelone. Des musées qui accueillent des expos temporaires. Par exemple, il y a Banksy qui est en train, une collection de Banksy qui est en train d'être exposée au musée du design. On avait eu Salvador Dali aussi, parce que Salvador Dali est catalan d'origine. Voilà, il y a cette offre culturelle qui est possible de manière gratuite, mais aussi d'un point de vue payant. Donc, il y a aussi cette idée de niveau de vie qu'il ne faut pas non plus oublier. Comment dire, certains lieux culturels souvent nécessitent d'avoir un niveau de vie assez confortable. Je parle par exemple du théâtre. Si on veut aller dans un beau théâtre, voilà, il faut mettre la main à la poche de manière assez conséquente, quoi. Donc il y a quand même d'un côté il y a une offre culturelle qui est riche, diversifiée. Qui demande quand même d'avoir un certain confort économique, et d'un autre, voilà, il y a des choses qui se font aussi dans la rue, parce qu'il y a beaucoup d'artistes de
Bien
rue
sûr.
aussi qui se produisent, ou même dans des salles de théâtre qui sont qui ne sont pas forcément très grandes, mais qui accueillent des jeunes artistes. Donc, voilà, il y a beaucoup de diversité pour beaucoup de goûts différents. Et voilà, il y a cette, on a toujours quelque chose à faire à Barcelone.
Bien sûr.
Que ça soit les fêtes locales, que ce soit les expositions, que ça soit les rencontres littéraires aussi. Moi qui adore la littérature, dans les librairies, il y a beaucoup de rencontres aussi avec des auteurs. Il y a toujours, voilà, enfin, par exemple, la littérature catalane est quand même beaucoup ancrée sur la culture catalane et dans sa relation avec le reste du royaume espagnol. Voilà, beaucoup de thèmes sociaux aussi qui sont abordés ici à Barcelone. Donc même d'un point de vue mouvement sociétal, Barcelone est quand même très dynamique, que ce soit en termes d'intégration des immigrants, que ce soit en termes de partage avec voilà, les touristes, que ce
Bien
soit
sûr.
Défense des droits des minorités. Des minorités, voilà. Ouais, il y a quand même, c'est une ville qui est très riche d'un point de vue culturel, économique, sociétal, et il y a toujours des questions qui se posent quand on marche dans la rue et qu'on rencontre différentes personnes, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un modèle de catalan, ils ne
Bien
se
sûr.
ressemblent pas tous.
Bien sûr.
Certains sont contestataires, d'autres sont plus, voilà, sont peut-être plus figés dans leur temps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils refusent de parler. Voilà, c'est des gens qui, il y a une culture de l'oralité qui est quand même très développée ici. Ils aiment beaucoup parler, ce qui est génial parce que je suis assez bavard.
Oui.
Il y a cette idée de voilà de vouloir parler avec les autres, de vouloir comprendre l'autre,
Mmh.
qui est quand même très ancré ici. Ouais, c'est une ville dans laquelle je me projette beaucoup.
D'accord. Bon, c'est une ville que tu recommandes à 100% finalement, quand on s'entend, parce
À
que
1000%.
t'es à 1000% carrément.
Ouais.
Merci beaucoup Marco. Pour terminer, j'avais trois petites questions pour toi, des questions assez rapides. Déjà, ma première question serait de savoir, est-ce que le cadre de vie que tu as aujourd'hui en Espagne, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais répliquer à Madagascar?
Non. Non, le cadre de vie que j'ai ici, que j'ai construit ici, n'est pas forcément reproductible à Madagascar, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, alors ici, en Espagne, il y a peut-être plus de mixité, plus de possibilités de, voilà, de se transférer d'une catégorie à l'autre. Cette idée de socle commun de pratiques, et les pratiques peuvent être claires ou obscures aussi, mais on nous les explique. Tandis qu'à Madagascar, par exemple, bon, après, ça fait un moment que je n'y suis pas allé, donc peut-être que ma vision est erronée, pardon, mais à Madagascar, j'ai plus l'impression que les choses sont difficiles, même pour les gens qui y vivent, parce que il y a cette idée qu'on ne maîtrise pas toujours toutes les variables, que ce soit d'un point de vue administratif, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue sécuritaire aussi. Donc voilà, donc il y a. Je pense déjà le penchant administratif, je ne pense pas que je pourrais avoir cette même quiétude et ce même confort. D'un point de vue économique, je pense que si j'avais des revenus équivalents à ceux des locaux, je ne pourrais, enfin, des malgaches qui y vivent, je veux dire, je ne pourrais pas avoir forcément la même vie. Si je vivais avec un salaire d'expatrié à Madagascar, évidemment, ça serait complètement différent.
Bien sûr, bien sûr.
Ça serait complètement différent. Donc ça, c'est voilà, faut comparer ce qui est comparable. Je ne pense pas forcément que ma vie en Espagne serait équivalente à celle de Madagascar si je devais vivre avec le style de vie malgache.
Malgache. D'accord.
Donc c'est encore une fois, je n'y suis pas allé depuis un bon moment, donc peut-être que beaucoup de choses ont changé, mais c'est quand même voilà, je me sentirais pas forcément à l'aise de profiter de Madagascar, de son cadre de vie, de tout ce que Madagascar a à offrir. Si je ne m'alignais pas forcément avec les locaux, en fait, je ne me
D'accord.
sentirais pas forcément intégré, on va
D'accord.
dire.
Mais tu t'en serais pas forcément à ta place non plus. D'accord. Ok. La deuxième question, est-ce que justement, est-ce que tu as une volonté de retourner vivre ou d'aller vivre en fait à Madagascar? Est-ce que c'est un projet que tu as en tête sur le court, moyen ou long terme, bien sûr?
Alors, en termes de capacité de projection, il faut savoir que je suis assez limité.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez pas volatile, mais je vis un peu les choses au jour le jour sans forcément pouvoir me dire que voilà, dans tel nombre d'années, je serai comme ci et comme ça. Donc, ce n'est ni oui ni non. Ce n'est pas non parce que voilà, je me dis que c'est Madagascar, c'est quand même un pays sublime et c'est là d'où je viens et je sais que c'est je pourrais profiter d'une vie d'une belle vie là-bas aussi. Et qu'il y a beaucoup de choses, je pense que j'en apprendrai aussi beaucoup sur moi et sur le pays encore plus si j'y vivais plus tard. Et ce n'est pas forcément oui aussi, parce que je n'ai pas encore le besoin ni l'envie d'aller y vivre, parce que je suis peut-être, j'ai trouvé mon confort ici actuellement.
Bien sûr.
J'ai trouvé mon confort ici en Espagne. Et que voilà, je transporte quand même un bout de Madagascar en moi avec l'éducation que j'ai reçue et même la famille que j'ai donc Madagascar ce n'est enfin le pour moi voilà être malgache n'est pas simplement vivre à
Bien
Madagascar
sûr.
ou être mais c'est aussi voilà avoir une famille et des valeurs qui te font sentir malgache et voilà, c'est plus un état, voilà, c'est plus un état et une identité, voilà, être malgache que être rattaché forcément à un sol.
Bien
Surtout
sûr.
quand on est issu de l'immigration, quoi.
Bien sûr. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est s'il y a quelque chose que tu aimerais partager, qu'on n'a pas abordé, un message pour les auditeurs.
Qu'il ne faut pas avoir peur de tenter des choses, parfois de se mettre en danger, pas forcément pour son intégrité physique, mais il ne faut pas avoir peur de mettre en danger notre expérience, ce qu'on a appris, ou au contraire, si on part de rien, faut pas avoir peur de sortir du confort. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu parce que il y a toujours une perspective d'apprendre quelque chose, de ressortir plus fort, de gagner en confiance en soi, mais aussi gagner en capacité d'accomplir des choses en fait.
Bien sûr.
Si je devais me baser sur ce que j'ai vécu moi, voilà, il faut, je dis vraiment il faut, Et bien, simplement, on peut, mais il faut accepter de se mettre, de se jeter un peu dans la bataille, et de se jeter vers quelque chose qui peut nous sembler trop grand. Mmh. Mais à partir du moment où on laisse de côté ses inquiétudes, à partir du moment où on laisse de côté sa peur de ne pas plaire ou sa peur de ne pas pouvoir le faire, surtout quand on va dans un pays étranger et que dont on réapprend la culture, dont on apprend la culture et la langue, il faut se donner les moyens de pouvoir s'intégrer et de pouvoir construire quelque chose. Donc pas forcément aller à droite à gauche, découvrir plein de choses, mais au moins aller au fond des choses, même si c'est peu de choses.
D'accord. Écoute, c'était vraiment un très beau message. Je te remercie beaucoup. C'était une discussion vraiment intéressante. J'ai trouvé ça vraiment pertinent, tout ce que tu nous as dit. Tu nous as offert une bonne vision et une belle vision de Barcelone. Et bien sûr, je suis pas du tout objective parce que j'y vis aussi et j'adore cette ville. Donc, merci beaucoup, Marco. Et puis, je te dis à bientôt.
Merci, Sarah.
Salut. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Encore merci à Marco de nous avoir partagé son expérience de vie à Barcelone en Espagne. Je profite de ce moment pour vous dire que le podcast ne fait que commencer et j'ai hâte de rencontrer de nouveaux malgaches à travers le monde qui vont nous partager leurs expériences. Si vous souhaitez que je vous interviewe ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis la plus active. Aussi, si vous avez des retours sur l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabar !